Donc pour notre méditation de ce matin, nous allons lire un passage dans Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1 à 12. Jacques 3, 1 à 12. Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage, s'il vous plaît? Jacques 3, 1 à 12.
Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.
Merci beaucoup, ma sœur. Ici, nous voyons, c'est un passage que peut-être on connaît très bien, ce passage, qu'on a entendu aussi plusieurs fois, que c'est intéressant de voir d'un autre côté ce passage que récemment j'ai découvert ce passage en relisant et aussi en reliant plusieurs textes dans ce passage. Donc ici, la langue n'est qu'un organe qui exprime une pensée. La langue, en elle-même, elle ne peut rien faire. Vous pouvez tenir la langue de votre voisin, mais la langue en elle-même est impuissante. Mais ce qui est autour de la langue qui l'anime. Je voulais ce matin aborder ce thème. Contrôler nos pensées. Contrôler nos pensées. Avec beaucoup d'humilité. Car notre manière de penser est tellement bien complexe. Donc, il faut revenir aux Écritures. Et reconsidérer l'importance de la pensée. Votre pensée façonnera ce que vous êtes. Le pouvoir de parler est un grand pouvoir que Dieu nous a accordé. Merci, Seigneur. Mais avec la langue, comme on a lu tout à l'heure, un homme peut louer Dieu, peut prier, peut chanter, peut même amener les âmes perdues vers le Seigneur. Quel grand privilège! Mais avec cette même langue, nous pouvons mentir pour ruiner la réputation de quelqu'un. Nous pouvons aussi blesser d'un homme, blesser ou briser le cœur d'un homme. La capacité de s'exprimer et la capacité d'influencer les autres et aussi d'accomplir des grandes choses. Et cependant, Nous pensons et nous considérons que cette capacité est acquise. Ici, dans ce chapitre, dans le but de nous faire comprendre l'importance de la parole contrôlée et les grandes conséquences de nos paroles, Jacques souligne plusieurs choses dans ce passage-là. Nous allons voir ensemble 6 images. Ici, dans ce passage, 6 images peuvent être classées en 3 catégories qui révèlent 3 façons de contrôler nos pensées, 3 pouvoirs. Nous allons voir le premier pouvoir ici, au verset 1 à 4. Le pouvoir de diriger. Ici, dans ce verset 1 à 4, Jacques souligne 2 images, le mort et le gouvernail. En choisissant le mort et le gouvernail, Jacques présente 2 choses qui sont vraiment petites, mais qui exercent un grand pouvoir, comme la langue d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait le mort? Le mort permet aux cavaliers de contrôler les grands chevaux, n'est-ce pas? Et aussi le petit gouvernail permet au capitaine de gouverner l'énorme bateau. La même chose, j'ai fait la comparaison avec la langue. La langue est un petit membre de notre corps. Mais cependant, elle a le pouvoir d'accomplir des grandes choses et aussi le pouvoir de tout détruire. Le mort et le gouvernail doivent aussi surmonter des forces contraires. Le mort doit surmonter le caractère sauvage du cheval. Le gouvernail aussi doit affronter les vents, les courants qui peuvent dévier le bateau de sa trajectoire. Langue aussi, la langue de l'être humain doit aussi surmonter les forces opposées. Pourquoi? Nous avons une vieille nature qui veut nous contrôler, qui veut nous pousser à pécher. Il y a des circonstances extérieures qui nous font dire des choses que nous ne devrions pas dire. Mais entre le péché à l'intérieur et la pression à l'extérieur, c'est compliqué de contrôler la langue. Ici, ces 2 images, le mort et le gouvernail, doivent être sous le contrôle d'une main forte. C'est-à-dire, l'expert cavalier doit garder la puissance de son cheval sous contrôle. C'est la même chose. Le capitaine doit expérimenter, doit gouverner courageusement à travers de la tempête. Lorsque Jésus-Christ contrôle la langue, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de dénoncer des mauvaises choses, mais toujours dans la bonne manière. Pas étonnant de voir David prier. Nous voyons ça dans Psaume 140. 141 verset 3, l'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Oui, David a su que le cœur est la clé pour la bonne parole. Ensuite, dans Matthieu 12, 34, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'Écriture dit, ceux qui ont le cœur rempli, la bouche en déborde. Notre bouche déborde toujours lorsque notre cœur est rempli. Exemple. Par exemple, quand on est amoureux de quelqu'un, notre bouche déborde de louanges pour cette personne, car le cœur est rempli d'affection, n'est-ce pas? Donc, le moteur, c'est le cœur. Ici, au verset 2, Jacques parle de maîtriser son corps tout entier. Est-ce que Jacques est en train de commettre une erreur en associant le péché de la langue avec le péché commis par le corps? Non. Pourquoi? Parce que la parole mène aux actions. Une personne dit une phrase sans réfléchir tout à coup, se retrouve dans une bagarre. Se retrouve impliqué dans une bagarre. Sa langue a forcé le reste de son corps pour se défendre lui-même. Quelqu'un a dit, semez une pensée et vous récolterez une action. Semez une action et vous récolterez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un caractère. Semez un caractère et vous récolterez une destinée. Ce n'est pas pour rien que l'écriture insiste sur la pensée. La pensée est la source de notre comportement. Maîtrisez la source, vous maîtrisez le cours de votre vie. C'est indéniable. Si nous n'avons pas conscience de la puissance de nos pensées, nous allons faire des choses que nous allons regretter. Nous allons faire des choses que nous regretterons. Parfois, on rencontre des personnes qui sont en échec dans leur vie de tous les jours ou dans leur vie spirituelle parce qu'ils ou elles sont sous-estimés de la puissance de leur pensée. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Nos pensées sont un vrai champ de bataille. Sur ce champ de bataille, nous sommes vainqueurs ou vaincus. Soit nous porterons les lauréats de toutes nos victoires, ou nous subirons les chaînes de tous nos échecs. Parfois, je me suis retrouvé face à des personnes en fin de vie qui avaient des regrets profonds sur bien des choix qu'ils ont faits dans leur vie. Les actes, vous savez, les actes de tout ce que vous entreprenez sont à l'origine de votre pensée. C'est pour cela que la pensée est quelque chose de très puissant. La manière de penser va définir ce que vous devenez. Ici, ces deux images, le mort et le gouvernail, ont le pouvoir de diriger, c'est-à-dire ils ont les conséquences sur la vie des autres. Un cheval qui s'enfuit ou un naufrage pourrait blesser, pourrait signifier des blessures ou la mort des piétons ou des passagers. C'est la même chose. La parole qu'on prononce peut avoir des conséquences sur la vie des autres. Prenons l'exemple d'un juge. Un juge dit coupable ou pas coupable. Ses paroles ont des conséquences sur le destin des prisonniers, des familles, des amis, etc. C'est la même chose, le président des États-Unis prononce quelques paroles, il signe quelques papiers. La nation est en guerre. Même un simple oui ou non des lèvres d'un parent peut affecter la direction de la vie d'un enfant. Votre entourage influencera votre manière de penser, votre manière d'agir, ainsi que votre manière d'être. Vous savez, quand on prend l'exemple d'une famille, quand les parents ont des mots d'encouragement, ça nourrit la pensée des enfants. J'ai vu des personnes qui n'ont jamais rien entrepris dans leur vie, car on leur a toujours dit tu ne réussiras jamais. Tu es un bourricot. Tu es un bon à rien. Ils n'ont jamais entrepris quelque chose, car dans leur pensée, dans leur disque dur, il avait quelque chose de très subjectif qui s'est imprimé. De toute manière, toi, tu es incapable, mais ta sœur est capable. Il suffit encore de la compétition dans la famille. Quand l'élève l'un et en rabaisse l'autre, Ne se sous-estimez jamais les conseils que vous donnez par les paroles ou sans paroles. Il y a des gens qui auraient pu faire des affaires dans leur vie, mais ils ont raté. Pourquoi? Parce qu'avant de faire l'affaire, ils disaient, de toute manière, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas pour moi. Donc, de te priver ce qui était pour toi. Et aussi, j'ai vu l'inverse. C'est-à-dire des pères qui disaient à leur fils, tu ne vaux rien. Donc, ses fils ont passé toute leur vie à prouver qu'ils sont capables. Ils n'ont pas arrêté d'entreprendre. Ils n'ont pas arrêté de construire quelque chose. Ils n'ont pas arrêté de prouver qu'ils sont capables. Vous savez, chers amis, tout votre état d'intérieur va influencer ce que vous allez réfléchir, ce que vous allez penser. Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, comment il a parlé? Comment il a réfléchi? Comment il a prononcé certaines paroles? On connaît l'histoire. Jésus, il a parlé à une femme près d'un puits. Ensuite, sa vie et la vie de ses voisins ont expérimenté un changement radical. Pierre, t'en penses la vie de Pierre? Pierre, il avait un fardeau de partager l'évangile. Pierre, il a parlé à Pentecôte. 3000 âmes sont venues vers le Seigneur. Vous savez, le 21 avril 1855, Edward Kimball est allé à Boston dans un magasin de chaussures et a amené un jeune D.L. Moody vers Christ. Résultat, il est l'un des grands évangélistes de notre histoire, l'homme dont son ministère continue encore. Nos paroles ont le pouvoir de diriger les autres pour faire le bon choix. Nous lisons dans Proverbe 12, 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Proverbe 10, verset 19. Oui, la langue est comme un mort. Et comme le gouvernail, elle est le pouvoir de diriger. Combien il est important que nos paroles dirigent les gens dans la bonne direction. Maintenant, nous allons voir notre deuxième point. Pouvoir de détruire. À partir de versets 5 à 8. Ici, nous voyons deux images encore. Le feu et l'animal. Un feu peut commencer juste avec une petite étincelle. Mais il peut prendre l'ampleur pour détruire une ville entière. Nous avons vu pendant cet été, au mois de juillet, le feu de forêt ont détruit près de plusieurs hectares. Et plus de 10 000, 11 000 personnes évacuées, des maisons touchées, etc. Nos paroles aussi peuvent allumer le feu. Si, vraiment, il y a dans l'église ou dans les familles ou dans la vie de tous les jours des hommes qui ne peuvent pas contrôler leur langue, le résultat sera la destruction. L'amour accorde la joie et l'esprit d'harmonie. Non seulement le feu s'enflamme petit à petit, mais il produit la chaleur et aussi il salit tout sur son passage. Le feu brûle et blesse. C'est la même chose. Nos paroles aussi peuvent brûler, peuvent blesser les autres. Une des tristesses que le Seigneur devait porter lorsqu'il était sur cette terre était la façon dont ses ennemis ont parlé de lui. Nous lisons cela dans Matthieu 11, 19. C'est un mangeur et un bueur, un ami de publicain, le genre de mauvaise vie. Matthieu 11, 19. Parce que notre Seigneur acceptait avec courtoisie les invitations pour dîner avec les gens. Chose que le pharisien n'aimait pas. C'est pas seulement ça. Lorsqu'il faisait des miracles, ils ont dit qu'il était lié avec Satan. Vous savez, toute une vie entière d'une personne peut être blessée et détruite par la langue. Mais le temps ne peut pas rectifier le péché de la langue. Mais nous pouvons confesser le péché de nos paroles. Mais le feu continue de se répandre. Comme le feu se répand, il détruit, les paroles aussi que nous parlons ont le pouvoir de détruire. Peut-être nos paroles ne pourraient pas causer des guerres ou détruire des villes, mais ils peuvent briser le cœur et ruiner les réputations. Elles peuvent aussi détruire les âmes en les envoyant à l'éternité sans Jésus-Christ. C'est pour cela que combien c'est important pour nous, c'était marqué dans Colossiens 4, 6, que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Donc la langue n'est pas seulement comme un feu, mais aussi elle est comme un animal dangereux. Parce qu'un animal est agité. Un animal est indiscipliné. Il cherche sa proie et se jette sur elle et la tue. Certains animaux sont venimeux et certaines langues répandent le venin. L'effet trompeur du poison, c'est qu'il agit lentement, mais c'est après qu'il tue. Comment réfléchissons-nous? Je pense qu'il est intéressant de se retrouver, de retourner vers le livre de Genèse. Comment Adam et Ève réfléchissaient? Nous lisons dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, le terme « image » désigne intelligence aussi. Faisons l'homme avec intelligence. Donc, nous sommes les êtres humains qui sont dotés de l'intelligence. Ils sont capables de décider librement ce que nous allons entreprendre. Dieu nous a créés avec intelligence. Il nous a dotés de capacités de raisonner, de capacités de réfléchir, de capacités de penser comme Dieu. Pourquoi? Afin de dominer et admirer la création. Bien sûr que Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Ce n'est pas notre cas. Mais Adam était créé à son image. Dans le jardin, Adam avait exercé cette capacité de raisonner. Il était chargé de donner un nom de tous les animaux. Il avait du boulot. Donner le nom de tous les animaux. Mais celui qui a pris en charge le jardin, Dieu n'a pas demandé à aucune autre créature de nommer les animaux. Il n'a pas dit à un oiseau, c'est toi qui vas s'occuper des jardins. Non. Donc, l'homme est aussi supérieur aux animaux. Le diable, Satan, ne s'est pas trompé. Le diable n'est pas allé tenter un bourricot. Il savait très bien où et qui il faut tenter. Il savait très bien que qui il fallait tenter. Imaginez un peu que Satan allait voir le bourricot et lui dire que ce fruit va lui ouvrir l'intelligence. Le bourricot va lui répondre, « Quoi? Tu n'as pas une carotte pour moi? Ça m'intéresse le plus. » Oui, mais Satan, ce n'est pas trompé. Il n'a pas allé vers le bourricot. Il n'a pas allé ni vers le singe. Mais il est allé vers celui qui a été créé à son image, à l'image de Dieu. Donc, Satan, il a fait chuter Adam et Ève. C'est Satan qui a corrompu sa façon de penser, qui a détourné de ce que Dieu voulait pour Adam et Ève. Il lui laisse croire un mensonge. À partir de ce mensonge, à partir de ce moment-là, toute la pensée de l'homme va être troublée. Toute la pensée de l'homme va être complètement troublée. Jacques nous rappelle encore une fois ici, les animaux peuvent être dressés. Le feu peut être éteint. Par ailleurs, la langue ne peut pas être dressée par l'homme, mais elle peut être domptée par Dieu. Si Dieu allume le feu et contrôle le feu, et la langue aussi sera un outil formidable pour les perdus et pour l'édification de l'Église. La chose la plus importante est bien sûr, c'est le cœur. Si le cœur est rempli de haine, c'est Satan qui va allumer le feu. Si le cœur est rempli d'amour, c'est Dieu qui va allumer le feu. Donc nous avons vu deux pouvoirs. Pouvoir de diriger, pouvoir de détruire. Nous allons finir avec ce troisième point, pouvoir de jouir. À partir de verset 9 à 12, nous voyons ici, il parle deux images encore, la source et le figuier. En effet, ici, nous voyons que la source, la fontaine de l'eau fraîche, et ce que l'homme a besoin pour vivre. L'homme n'a pas besoin de l'eau uniquement pour vivre. Il a aussi besoin de l'eau pour laver, pour cuisiner, et aussi pour beaucoup d'autres choses nécessaires pour vivre. Nous voyons au verset dans le Proverbe 18:4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Ce verset souligne l'importance de nos paroles. L'eau donne la vie. La parole aussi peut donner la vie. Si l'eau n'a pas été traitée, elle peut apporter la destruction et la mort. Nous voyons dans Proverbe 18:21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est vrai, lorsque nous buvons l'eau fraîche d'une source, rarement nous pensons au déluge. Nous pensons quoi? Nous pensons vraiment ce précieux cadeau de rafraîchissement pour nous. Et nous avons besoin d'avoir cette eau pour rester en bonne santé. Mais l'eau aussi, on peut l'utiliser pour nettoyer, pour purifier. La parole de Dieu est une eau spirituelle qui nous lave, qui nous purifie. Nos paroles aussi, nos paroles vis-à-vis des autres peuvent aussi aider à les purifier, aider à les sanctifier. Ici, Jacques lance au verset 11 et 12, il lance un avertissement. Une source ne peut donner deux sortes d'eau. Un arbre ne peut donner deux sortes de fruits. Nous attendons que la source donne de la bonne eau tout le temps. Nous attendons que le figuier produise des figues. L'olivier produise les olives. La nature reproduit selon sa nature. Si la langue est contradictoire, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec le cœur. Lorsque Pierre n'était pas en communion avec Christ, il a prononcé des jurons. Mais il est allé dehors. Il a pleuré amèrement. Il a confessé ses péchés avec Dieu. La langue qui bénit le Père et qui tourne autour et qui maudit l'homme fait à l'image de Dieu, a besoin absolument de ce médicament spirituel. Ici dans le jardin, la capacité de raisonnement Adam et Ève était parfaite, était parfaite, était pure, était sainte. Aucune mauvaise intention, aucun mauvais sentiment, rien dans leur réflexion ne laisse place au péché. Mais soudain vient la tentation. Les pensées vont être troublées. Donc, cette image a été dégradé par cette œuvre de Satan. Pour la première fois, nous voyons ici, Adam et Ève vont avoir une pensée corrompue. Ils vont être séparés de Dieu. Vous avez compris que le cœur de l'homme qui fut brisé à ce moment-là, le cœur de l'homme fut brisé à ce moment-là. Très souvent, quand on parle d'un cœur brisé, c'est au niveau affectif. Il se passait quelque chose. Donc, notre cœur a été brisé. Elle m'aimait, elle ne m'aime plus. Mon cœur est brisé. Il m'a déshonoré. Mon cœur est brisé. Lorsque le cœur est brisé, la manière de raisonner est aussi brisé. Tout ce qui était fait à l'image de Dieu est brisé aussi. Il est important de comprendre que lorsque notre cœur est brisé, notre manière, toute notre manière de penser est altérée. Connaissons, je vais terminer juste avec cette petite histoire de David, que nous connaissons très bien, que David était quelqu'un selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu l'aimait, pas seulement. Mais David était selon le cœur de Dieu, parce que David a pensé selon Dieu. C'est pour cette raison-là. Le jour où il n'a pas pensé selon Dieu, c'était la chute de David. Sa manière de penser, son raisonnement, était selon la volonté de Dieu. Il s'agissait en conséquence avec la bénédiction et les victoires aussi. Mais c'est toute la différence entre David et Saül. C'est toute la différence entre David et le peuple d'Israël. À un moment donné, l'armée syrienne entoure Israël. David venait d'être nommé roi. Les Syriens arrivaient pour envahir Jérusalem. Que va faire David? Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Que va faire David? Il ne va pas dire que je vais aller le combattre. Il va dire, l'Éternel, dois-je aller les combattre? L'homme, selon le cœur de Dieu, cherchait d'abord ce que Dieu veut avant d'agir. Il a raisonné d'après ce que Dieu voulait, non pas d'après ce que lui voulait. Ce qui fait toute la différence, oui, c'est le cœur brisé. Nous devons restaurer ce cœur brisé. Lorsque le cœur est restauré, tout change, chers amis. Tout change. Comment? Déjà, d'un point de vue physique, quand le cœur est malade, qu'est-ce qui se passe? Quand le cœur est malade, tout est malade. Quand le cœur est malade, vous ne montez pas trois marches, vous êtes essoufflé. Quand le cœur est malade, vous avez de la tension ou sous tension. Quand le cœur est malade, il n'y a rien qui va. Quand le cœur est guéri, on retrouve toutes nos forces. Quand le cœur de l'homme est guéri, toute sa manière de penser, toute sa manière de se orienter change. Chers frères et sœurs, ta manière de penser va définir ton succès ou ton échec. Si tu penses juste en fonction de ta chair, alors très souvent, tu seras en échec. Si tu penses, si tu commences à penser selon Dieu, ta pensée, ta manière de penser vont changer. Tous savaient très bien qu'en mathématiques, dans une équation, si on part sur une mauvaise valeur, le résultat est faux. Si on essaie de résoudre un problème toujours avec une mauvaise valeur, le résultat est toujours faux, à moins que ce soit un grand hasard. Si vous avez des bonnes valeurs, si vous avez des bonnes valeurs, le résultat toujours sera juste. Si vous mettez la valeur de Dieu dans nos choix, si vous mettez la valeur de Dieu dans nos pensées, dans notre raisonnement, dans notre manière de penser, donc notre manière de penser va changer. Notre manière de parler va changer. Notre manière d'agir en conséquence va changer. Notre vie va changer. Notre cœur va changer. Et notre destinée va changer. Donc ici, vraiment le problème, bien sûr, ce n'est pas la langue. Ce n'est pas nos paroles. Ce ne sont pas nos pensées, mais c'est le cœur. C'est pour cela que je vais terminer avec juste ces derniers versets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Comme nous remplissons nos cœurs avec la parole de Dieu et laissons la place au Saint-Esprit, Dieu pourrait nous utiliser à apporter le bien-être aux autres. Prions comme David. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est Dieu qui nous aide à contrôler nos pensées. Lorsque Jésus-Christ est le Seigneur du cœur, bien sûr, il est aussi le Seigneur de nos lèvres. Amen.